députée européenne depuis 2019 sous l'étiquette LREM Modem, mais aussi conseillère municipale à Cassis depuis mai dernier, dans la minorité. Sylvie Brunet est très impliquée dans les questions sociales et d'emploi au Parlement européen. Elle est aussi très attachée au local et à Marseille, elle a installé une antenne de son bureau parlementaire où elle rencontre régulièrement les parties prenantes régionales, ce qui lui permet de suivre la mise en œuvre des politiques et des budgets votés par le Parlement européen. Enfin, il faut noter un rendez-vous important. Au premier semestre 2022, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne et Sylvie Brunet prépare le volet politique sociale de cette présidence française. Elle est notre invitée sur Dialogue RCF.
Politique et Dja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel.
Bonjour Sylvie Brunet, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Alors dans cette période de crise sanitaire que nous connaissons depuis un an maintenant, comment fonctionne le Parlement européen? Moins de déplacements, du télétravail? Comment se passent les sessions au Parlement? Est-ce que vous continuez votre travail comme d'habitude?
Complètement, c'est une très bonne question puisque le Parlement européen a su s'adapter très vite. Et depuis plus d'un an malheureusement maintenant, nous avons la possibilité de voter à distance. Nous avons une application digitale particulière qui nous permet de suivre les débats en plénière, d'intervenir en commission à distance et donc c'est très utile. Par ailleurs, on s'est aussi adapté puisque quand on a une intervention plénière, on peut le faire dans les antennes du Parlement européen dans les différents pays. Et nous avons la chance d'avoir une antenne à Marseille. Donc il m'est arrivé d'intervenir depuis le bureau du Parlement européen à Marseille.
Mais en groupe, comment vous arrivez à fonctionner dans votre groupe? Vous faites partie du groupe Renaissance, Renew, au Parlement. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des contacts? C'est peut-être plus difficile. Puis vous ne vous rencontrez pas dans les couloirs pour avoir un petit aparté?
Absolument. Alors déjà, je suis quand même revenue. Nous avons, nous, députés, évidemment, l'autorisation de nous déplacer quand même de temps en temps à Bruxelles, particulièrement quand il y a des plénières. Ça permet de revoir les collègues. Mais nous avons bien évidemment, comme beaucoup de personnes en ce moment, des réunions à distance avec des applications bien connues comme Zoom ou d'autres. Et du coup, toutes les semaines, nous avons des réunions de délégation. La délégation Renaissance, hein, qui est dirigée par Stéphane Séjourné, et également des réunions régulières avec les collègues en fonction de nos sujets. J'ai également, moi, étant au Modem, un certain nombre de réunions à distance. Voilà, on arrive à continuer à fonctionner. Alors bien sûr, il nous manque la partie humaine. Surtout quand on fait de la politique, c'est très compliqué, voilà, de plus être sur le terrain, de ne pas pouvoir rencontrer les personnes. Ce qu'on arrive quand même à faire, vous disiez, j'ai une antenne parlementaire ici à Marseille, donc on peut arriver quand même à monter des petites réunions, à rencontrer des personnes. Vous voyez bien qu'en ce moment, on est à nouveau confiné depuis quelques semaines, il faut montrer l'exemple et voilà, ne pas prendre de risques, ni en faire prendre.
Alors, je le disais dans l'introduction, vous êtes spécialiste de l'emploi, vous avez été directrice des ressources humaines dans plusieurs grands groupes. Est-ce que, à votre avis, cette situation qu'on connaît va modifier les habitudes de travail et comment réagissent les autres pays européens? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que vous sentez qu'il y a une même voie à suivre?
Effectivement, partout. Alors j'allais dire dans le monde, hein, c'est pas uniquement en Europe, mais il y aura avant la crise et après cette crise qui est inédite, qui est mondiale, qui nous est tombée dessus sans qu'on puisse imputer une faute à qui que ce soit, je pense, au travers de ce qu'on a aujourd'hui. Donc oui, ça a accéléré la transition digitale, puisque on vient de dire, on est tous à beaucoup utiliser le télétravail, des connexions à distance pour limiter les risques dus à cette pandémie. Maintenant, on a quand même des signaux d'inquiétude aussi, puisque, vous savez, toutes les grandes crises se traduisent par des crises sociales et un impact plus fort sur les plus vulnérables. Donc, notamment, un risque de montée de la grande pauvreté qui nous inquiète partout en Europe. Vous savez, je dis toujours, en un an, malheureusement, en 2020, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a augmenté de 3% dans toute l'Europe. 3%.
Dans toute l'Europe.
L'Europe. Alors évidemment, dans les pays où le taux de chômage est structurellement le plus élevé, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne et même la France, ça se traduit par un taux de chômage des jeunes plus élevé et plus de vulnérabilité. Mais même en Allemagne ou en Autriche, où le taux de chômage est quand même plus faible, il augmente hélas partout.
Est-ce que vous pensez que qu'il va y avoir une régression des droits sociaux ou plus? Parce que vous avez présenté récemment, parce que vous êtes membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, un projet de rapport sur les travailleurs de plateformes numériques qui ont un statut effectivement un peu particulier. Est-ce que vous ne craignez pas que pour la reprise, certaines entreprises se disent finalement on a des accords un peu moins contraignants qu'avant?
Écoutez, c'est tout le défi qu'on doit mener. J'étais encore ce matin en commission emploi et affaires sociales. Si en sortie de crise, parce qu'on aura une sortie de crise, on sait tous que quand la vaccination va être beaucoup plus étendue, on va repartir. Bon. Alors, pas d'un coup, mais il faut plus particulièrement et encore plus fortement s'assurer d'une convergence sociale, de protéger les plus vulnérables, parce qu'on a toujours un risque de travail à deux vitesses. Et effectivement, je suis rapporteure sur ce qu'on appelle les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques, ce qu'on appelle souvent aussi l'ubérisation de l'économie. Alors, avec des secteurs plus exposés que d'autres, comme la livraison de courses à domicile ou de repas à domicile. Mais le défi, c'est à la fois de ne pas tuer, je dirais, un système qui est bienvenu, puisque, effectivement, que le numérique développe l'emploi, y compris par le biais de plateformes ou de travail indépendant, c'est une très bonne chose. On ne veut pas tuer ça, surtout en ce moment. Mais en même temps, pas se retrouver avec des personnes qui ne sont pas protégées des accidents du travail, en termes de santé, ou qui sont mal payées par rapport à d'autres. Donc, la même manière, nous allons devoir lutter contre les inégalités. De la même manière, nous allons devoir progresser sur une convergence sociale avec le salaire minimum dans tous les pays, un cadre pour le salaire minimum dans tous les pays de l'Union européenne. Alors ça peut paraître contradictoire, mais oui, il faut plus particulièrement se pencher sur le social.
Ça veut dire qu'il y a urgence où le Parlement va prendre le temps de discuter, parce que c'est un projet de rapport que vous avez présenté. D'ailleurs, comment ça se passe? Comment ça se passe concrètement?
Très concrètement, donc là, c'est ce qu'on appelle un rapport d'initiative, c'est-à-dire que c'est la commission emploi qui en a pris l'initiative. Donc, je suis rapporteur pour le groupe Renew Europe, qui est le troisième groupe politique, centriste, libéral. Donc
on vous a choisi ou...
C'est très compliqué, compliqué, parce qu'on attribue les rapports avec des systèmes de points en fonction du poids politique des groupes. Le plus gros groupe politique au Parlement, c'est ce qu'on appelle le PPE. Donc, c'est une droite. On retrouve les Républicains, par exemple, pour la France. Le deuxième groupe, c'est les SND, socialistes et démocrates. On retrouve, par exemple, pour la France, les socialistes. Et le troisième groupe, c'est le nôtre. Nous sommes quand même une centaine. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'attribue les rapports en fonction, je vous le dis, du poids politique. Donc, évidemment, le PPE ou SND ont beaucoup plus de rapports que nous. Donc, c'est Renew qui a eu le rapport. Et donc, c'est moi qui ai été nommée rapporteure parce qu'effectivement, je suis vice-coordinatrice aussi de la commission emploi et très impliquée sur tous ces sujets. Le socle européen des droits sociaux dont on a parlé. Et donc, le sujet des travailleurs des plateformes, on l'avait déjà traité quand j'étais au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Où j'ai présidé 4 ans la section travail et emploi. Donc c'est vrai que je crois que je connais un peu le sujet qui est très complexe. Bon. Et donc ça, c'est un rapport d'initiative, mais qui va préfigurer sans doute un projet de directive.
Puisque mais pour l'instant, vous n'avez pas de calendrier.
Pour l'instant, on n'a pas encore le calendrier. Mmh. Le commissaire Schmitt et la commission a parlé de fin d'année pour proposer une directive. Et là, la directive, c'est... évidemment, un cadre beaucoup plus, je dirais, contraignant et qui devrait réglementer le sujet dans toute l'Europe. Parce que le problème aujourd'hui sur ces travailleurs des plateformes, c'est qu'on a beaucoup de décisions de justice qui tombent dans beaucoup de pays, disparates, pas les mêmes systèmes. On ne peut pas continuer comme ça. Pour le coup, il nous faut vraiment un cadre européen sur le sujet. C'est pour ça que c'est important.
Alors, il y a une urgence quand même, puisqu'on parle de reprise après cette crise. Il n'y a pas de calendrier pour ça. La directive, il faut combien de temps pour qu'elle soit votée?
La proposition de directive... déjà, il faut que ce rapport que je mène soit voté. Donc, il devrait, si tout va bien, être voté en plénière aux alentours de juin. Entre-temps, moi, je vais recevoir tous les amendements des autres groupes politiques. Donc, il y a un énorme travail, comme au Parlement français, d'amendements pour arriver à un texte de compromis qui soit voté. Ensuite, la proposition de directive, elle est écrite par la Commission et elle va passer, du coup, au Parlement, où nous allons amender de la même manière. Ça peut aller assez vite, mais on va dire que si, au mieux en septembre, la proposition de directive va du coup être va sortir, et ensuite au premier semestre 2022, on peut commencer
juste
à adopter.
Au moment où la France prend la présidence.
On a d'autres textes en attendant où je suis impliquée aussi, puisqu'on a quand même le salaire minimum. Là, la proposition de directive. Ça y est, nous l'avons reçue et ça y est, nous commençons à travailler sur la proposition de directive sur le salaire minimum qui, pour le coup, pourrait être adoptée et votée lors de la présidence française de l'Union européenne. On va avoir des vrais sujets sociaux. Donc, on va avoir le salaire minimum, les travailleurs des plateformes, vraisemblablement.
L'égalité
des
salaires. Et
puis la transparence, voilà, la transparence salariale où je suis, vraisemblablement, je vais être aussi rapporteur pour le groupe Renew. Donc là, ça concerne le sujet de l'égalité. Comment on réduit les écarts salariaux entre les femmes et les hommes en Europe, avec une inégalité en fonction aussi des pays. En France, on est quand même assez avancé. On a eu l'index qui a été voté, mais on a encore en moyenne 16% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes dans toute l'Europe. Donc l'idée, c'est d'avoir une directive plus contraignante en termes de transparence salariale, qu'on ait des vrais indicateurs et qu'on ait des vrais plans d'action pays par pays, entreprise par entreprise, pour réduire ces écarts quand il y en a.
Est-ce que vous sentez, quand vous parlez avec vos autres collègues européens, une volonté d'aller dans ce sens plus social ou il y a des freins encore très très forts ?
Il y a des freins, à l'évidence, pour deux raisons. La première raison, c'est que dans les traités initiaux, dès le départ, on va dire, le sujet social a toujours été plutôt renvoyé aux États membres. Et le sujet social a été vraiment adressé à partir de la mobilité. L'Europe, c'est quoi ? C'est un marché, hein. C'est un marché intérieur. Au départ, c'était ça. C'était une idée de paix, de marché intérieur. La politique agricole commune, ça, c'est les gros volets traditionnels de l'Europe. Mais on s'est bien vite aperçu que si on n'a pas, surtout maintenant, nous sommes 27, si on n'a pas des règles communes et un minimum de convergence sociale, on ne peut pas avoir un marché intérieur équilibré. C'est impossible. Il y a ce sujet, il y a le sujet des compétences, de l'attractivité en termes de compétences. Et puis, il y a eu la première grande crise de 2009 où, évidemment, le sujet social a beaucoup plus émergé, et ce qui a valu le vote du socle européen des droits sociaux en 2017. Et depuis, on sent bien qu'il y a une poussée pour plus de social. Mais la deuxième raison, on ne va pas se leurrer, c'est qu'on n'a pas cette convergence sociale. Donc, on a à l'évidence, notamment dans certains pays de l'Est, un salaire minimum inférieur qu'on ne va pas nommer, mais on le sait tous. On a, et on en a aussi où le niveau social est plus élevé. Je regardais hier un reportage sur les métiers de santé, les infirmières qui sont beaucoup mieux payées au Luxembourg. Elles font 20 km, elles passent de la France au Luxembourg, elles sont payées le double. Bon, donc vous voyez, mais en même temps, pour se loger au Luxembourg, c'est le double aussi. En revanche, vous êtes transfrontalier, ça va être intéressant de travailler sur des métiers comme ça en pénurie, dans des pays où on est mieux payé. On a le même sujet en Allemagne. Donc on a effectivement, de fait, on n'a pas de convergence fiscale réelle, faut bien le dire, oui, ni sociale. Bon.
Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une convergence des avis si des pays refusent de voter, des groupes parlementaires refusent de voter? Qu'est-ce qui va se passer sur toutes ces propositions de directives?
C'est tout le travail
qu'on
mène.
Ça ne sera pas appliqué?
Exactement. Si on n'arrive pas à voter un texte législatif, mais bon, on y arrive toujours, mais c'est un travail énorme.
C'est l'art du compromis.
Exactement. C'est un énorme travail de négociation. D'abord, nous, sur tous les sujets qu'on adresse, on a quand même le dialogue social au niveau européen. Donc, on travaille avec les partenaires sociaux, tant d'ailleurs pour les syndicats de salariés que pour les syndicats d'employeurs. Et on est toujours dans ce travail de compromis qui est compliqué, mais parfois c'est très difficile. On l'a vu pour les travailleurs détachés. Ça a traîné, on a beaucoup de mal à avancer sur ces sujets. Le paquet mobilité pour les chauffeurs routiers, ça a été très long. C'est un travail de longue haleine. Mais on arrive quand même à progresser et voilà, il faut jamais lâcher. On arrive à des compromis et à des améliorations qui font monter le niveau de protection sociale dans tous les pays. Et c'est ce qu'on recherche finalement. Alors maintenant, faut pas se leurrer, ça va pas se faire comme ça aussi aisément. Mais on a quand même aussi une partie du plan de relance qui va être consacrée au social.
Est-ce que vous pensez que cette crise a peut-être, on l'a vu au début en tout cas, on sentait peut-être une unanimité entre les différents dirigeants européens. Est-ce que ça va se déliter ou pas ? Chacun va revenir dans ses frontières et ses refus.
Non,
ses
on refus, a quand même. Ses... Non, il faut voir quand même les avancées. J'allais dire, grâce à cette terrible crise, notamment le fait que pour la première fois de l'histoire de la construction européenne, on va avoir effectivement un endettement par la Commission elle-même, la BCE, et des subventions données aux pays qui souffrent le plus. Et donc ça, c'est la première fois que c'est l'emprunt, il va être fait par l'Europe elle-même, donc avec des taux d'intérêt extrêmement bas, donc pour quand même 40% du plan. Donc c'est quand même énorme comme avancée. Ensuite, on a mis des conditions, et ça non sans peine, puisque finalement ça a été des débats houleux, notamment sur le sujet de l'état de droit. La condition pour pouvoir avoir ces aides, c'est d'être dans les critères de ce qu'on appelle l'état de droit. Donc la liberté des médias, la liberté de la justice. Pas toujours simple, parce qu'on est 27, donc d'un pays à l'autre, il peut y avoir, à un moment donné, des régimes qui passent.
Et d'un moment à l'autre, effectivement.
Voilà, et on a tout le temps un pays qui a des élections. À 27, tout le temps. Et là, tous les risques sont possibles.
On va peut-être faire une pause musicale. On en parlera après. On va écouter Julien Clerc, Utile.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, la. La 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la.
Politique et Dja, dialogue RCF.
Alors Sylvie Brunet, je rappelle, députée européenne, vous avez choisi ce morceau, cette chanson de Julien Clerc. Pour quelle raison ?
Oh, pour de multiples raisons. Peut-être la première, je suis depuis toujours une fan de Julien Clerc. J'ai même un fils qui s'appelle Julien, c'est vous dire. Voilà, et j'adore ce chanteur. Et cette chanson me touche particulièrement parce qu'elle est finalement sur l'engagement aussi, le sens qu'on donne à sa vie, à ses combats. Et voilà, les paroles sont magnifiques, la musique est magnifique. Et c'est pour toutes ces raisons que je l'ai choisie.
Alors, on revient à votre mandat de député, mais... Vous avez quand même un attachement local. Hein. Je disais, vous étiez conseillère municipale à Cassis, dans la minorité, précisez-vous, pas dans l'opposition, parce que vous ne tenez pas à être opposée systématiquement. Et vous avez vous avez créé un bureau, une antenne à Marseille pour pouvoir rencontrer les gens. C'est important pour vous parce que effectivement, on ne connaît pas vraiment bien l'Europe, on ne sait pas comment ça fonctionne.
Alors, c'est fondamental. Moi, je dis toujours que sur les sujets que je connais le mieux, je travaille à trois niveaux. Le niveau européen, puisque j'ai eu le grand honneur d'être élue députée européenne. Le niveau national, parce que je travaille étroitement, bien sûr, avec le gouvernement. Je suis dans la majorité gouvernementale. Le ministère du Travail. Et puis le niveau local. Alors d'ailleurs, je suis quand même vice-présidente de la mission locale de Marseille aussi. Je suis très engagée sur tout ce qui est, concerne les, la jeunesse. J'ai présidé la concertation préalable à la réforme de l'apprentissage. Donc j'ai signé le premier acte de cette réforme. J'en suis très fière. Et surtout, je pense pour le coup que c'est très utile. Alors oui, moi au niveau local, je suis plusieurs projets. J'en ai d'ailleurs quelques-uns avec la mission locale, autour du corps européen de solidarité, un projet aussi de formation numérique pour faire entrer le maximum de filles. On n'a pas assez de jeunes filles dans les métiers de codage. On va travailler avec le Wagon, qui est une très très belle structure de formation. Mais j'ai également d'autres projets locaux où je suis, comme le consortium FAME en région PACA, qui vise à favoriser la mobilité des apprentis donc dans l'Union européenne.
Dans le cadre d'Erasmus.
Voilà, dans le cadre d'Erasmus, puisque nous avons voté le triplement du budget Erasmus. Alors, en ce moment, un petit peu en panne avec les problématiques de mobilité difficiles pour les jeunes, mais je suis confiante, ça va reprendre. Et là, c'est un point important. Les mamans citoyennes, donc à Saint-Maximin.
Alors, qu'est-ce que c'est, les mamans citoyennes ?
Alors, c'est un très, très beau projet associatif qui promeut l'éducation à la citoyenneté de femmes en valorisant le rôle de mère, c'est-à-dire qu'elles se rendent dans des endroits emblématiques de la République ou du politique. Elles ont été reçues au Sénat, par exemple, avec un de leurs enfants. Et ce sont souvent des mamans issues de milieux plus défavorisés auxquelles on n'a pas porté assez attention souvent et du coup qui sont heureuses de voir ce que la France aussi les honore dans leur rôle de mère et l'éducation de leurs enfants. Et donc elles ont été reçues au Sénat et je m'apprêtais à les recevoir à Strasbourg au Parlement européen, mais hélas nous avons dû différer, donc on attend ce moment avec impatience. J'ai reçu aussi d'ailleurs à l'époque quand on a pu le faire en 2019 une délégation de l'école de la deuxième chance de Marseille, aussi à Strasbourg. Ça a été un magnifique moment, avec une trentaine de jeunes qui ont pu visiter les locaux, qui ont pu être reçus à Strasbourg et qui ont posé des questions extrêmement pertinentes.
Je reviens à votre antenne. Donc, il y a un bureau du Parlement également à Marseille. Est-ce que c'est important ? On voit que dans les collectivités, il y a beaucoup d'investissements qui sont financés en partie par l'Europe. Mais effectivement, si on voit les élus locaux, départementaux, régionaux, le député, on ne voit pas souvent la représentation européenne. Donc, il y a juste un panneau qui indique. Est-ce que c'est... Le fait que vous ayez ce bureau permet aux citoyens de connaître un peu mieux le rôle de l'Europe ?
Bien sûr, c'est le but. Après, c'est compliqué tout ça parce qu'effectivement, les fonds, ce n'est pas nous, députés européens, bien évidemment, qui nous en occupons. C'est traité d'ailleurs au niveau national. Il y a des accords qui se font entre Jacqueline Gourault, le ministère des Affaires européennes, et puis bien sûr les régions. Ce sont les régions, pour l'essentiel, qui ensuite dispatchent effectivement ces fonds. Mais en amont de tout, c'est quand même nous qui votons les options stratégiques. Le cadre budgétaire pour les 7 ans à venir, le plan de relance. Quand on dit dans le plan de relance que 37% des fonds doivent être dévolus à la transition environnementale, bah c'est nous qui l'avons voté, avec l'ensemble des groupes politiques. Donc c'est important parce qu'il faut rappeler le rôle du politique, puis après le rôle, bien sûr, que vont reprendre localement les régions, et c'est normal, les élus locaux aussi, et à nous d'essayer de travailler de façon intelligente, en mettant de côté, parfois les problèmes politiques, parce qu'on n'est pas dans les mêmes tendances. Voilà. Oui. Et il faut travailler pour notre pays.
Et effectivement, comme vous disiez, pas seulement en Europe, mais aussi en France, il y a souvent des élections.
Et tout le temps.
Pas tout le temps, mais enfin...
Je suis pratiquement, depuis 2 ans que je suis au Parlement européen, il y a tout le temps eu des votes aussi au niveau national.
Est-ce que, alors, on va dire un mot sur la présidence française de l'Union. Ça va être un mandat fort, c'est 6 mois, c'est ça ?
Absolument.
Tout le monde le prépare pour donner...
Absolument.
Est-ce qu'il va y avoir des relais en France pour justement expliquer en quoi va consister cette présidence, les tendances ?
Oui, alors il y a déjà un comité de suivi de ce qu'on appelle la PFUE, donc la présidence française de l'Union européenne, qui a été créée, où l'on retrouve donc des parlementaires nationaux, des représentants des grandes instances locales, régionales, des élus, mais également bien sûr des députés européens, enfin pas tous, mais quels que soient d'ailleurs les groupes politiques, ceux qui président un groupe politique, donc que ce soit bien sûr la majorité, mais aussi les Verts, donc voilà, tous les groupes politiques sont représentés. Ça va être un moment fort parce que là aussi, vous savez, au niveau européen, il faut comprendre que on ne travaille pas forcément de la même manière qu'à un niveau national, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je dialogue avec mes interlocuteurs d'autres groupes politiques en France, où quelquefois on s'affronte. Mais donc, pourquoi ? Là, ça va être absolument stratégique, on va être en sortie de crise. On le sait, 2022, on l'espère tous et on en est pratiquement sûr. Donc on va avoir beaucoup de choses à travailler sur l'industrie à relocaliser au niveau européen. Le social,
donc,
le Green
Deal. Donc vous pensez que le compromis risque de souffrir un peu ou non, non.
Écoutez, je
c'est
pense
difficile
que
de lire dans l'avenir. Mais...
Voilà, je pense qu'on ne pourra pas éviter, on sera à quelques mois des présidentielles, qu'il y ait évidemment une orchestration politique par d'autres groupes. Mais au niveau européen, en tout cas, on va attendre beaucoup de la France, comme on a beaucoup attendu de l'Allemagne, dont la présidence a été importante pour voter ce plan de relance. Donc ça a été quand même un moment fort. Là, on va être dans l'application de ce plan de relance, réellement, parce que nous sommes toujours dans la crise en ce moment. Donc les fonds vont arriver, je pense, plutôt en juin ou cet été, concrètement, en France. Mais ensuite, voilà, la gestion concrète, ça va être 2022. Donc oui, on va devoir quand même travailler ensemble dans toute l'Europe pour aider les pays les plus touchés.
Juste une dernière question, mais rapide, puisque l'émission se termine. Ces fonds européens vont être dispatchés par les régions où ça passe directement de l'Europe à certaines collectivités, par exemple, ou entreprises.
Ils sont d'abord répartis au niveau national. Donc, on va dire il y a tant pour, de fonds pour la France, type de fonds par type de fonds. Moi, par exemple, je suis plus axée sur le FSE, le Fonds social européen. Et puis ensuite, une partie transite par les régions, d'autres directement par l'État ou les directions régionales du travail et de l'emploi, par exemple, pour ce qui est FSE. Donc voilà, ça dépend des types de fonds. Mais il y a d'abord un niveau national et ensuite un accord avec les régions pour ce qui revient dans chaque région.
Très bien, l'émission est terminée. Merci beaucoup Sylvie Brunet. Je rappelle que vous êtes députée européenne. Vous êtes venue nous parler de votre mandat de députée. C'est très bien. On en saura plus. Et puis surtout, on va attendre la date le 1er janvier 2022 pour voir le rôle qu'aura la France. Merci à Frédéric Banegas pour la réalisation de l'émission. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site RCF et la télécharger. Au revoir.
Merci à vous aussi.